Qui était Saint Venceslas? Épineuse question qui est sur toutes les lèvres ce mercredi en République tchèque. Et pour cause, la journée est fériée en l'honneur de Venceslas, Václav en tchèque, le saint patron de la Bohême et de la Moravie. La date n'est pas choisie au hasard puisqu'il serait mort un 28 septembre. Pour tenter de fournir des éléments de réponse à ces interrogations brûlantes, qui donc était ce duc de la dynastie Pchemislide? Pourquoi a-t-il été canonisé? Comment sa figure a-t-elle été utilisée au cours de l'histoire? Radio Prague a contacté la médiéviste Héloïse Advomatchka, qui travaille à l'université du Luxembourg à l'occasion de cette émission spéciale. Venceslas, c'est un duc de la dynastie des Pchemislides au début du Xe siècle. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cette dynastie Pchemislide et qu'est-ce qu'on trouve dans les pays tchèques à cette période, au début du Xe siècle?
La dynastie Pchemislide, c'est une dynastie importante parce qu'elle est liée en fait au début de l'histoire du duché de Bohême. Effectivement, déjà l'histoire mythique est liée à Pchemislas le Laboureur, qui aurait été le premier duc de Bohême. Bon, naturellement, c'est un duc légendaire, mais c'est quand même sur la base de ce nom qu'est construit le nom de dynastie des Pchemislides. Et ensuite, le premier duc de Bohême est également un Pchemislide. Et ce qui est intéressant, c'est que cette dynastie accompagne l'histoire de la Bohême jusqu'au début du XIVe siècle. Donc c'est une très longue période, avec l'assassinat donc de Venceslas III en 1306, qui coïncide avec l'extinction de la dynastie des Pchemislides puisqu'il n'a pas de descendants. Et donc c'est vraiment une dynastie qui accompagne l'histoire sur plusieurs siècles de la Bohême. Alors ensuite, la Bohême à l'époque de Venceslas, il faut pas non plus. Il y a une tendance de l'historiographie, surtout au XIXe siècle, de voir la Bohême comme déjà un État unifié à l'époque de Venceslas, de Saint Venceslas. En réalité, la Bohême à cette époque n'est pas encore aussi assurée que ne l'a prétendu, disons, longtemps une certaine historiographie. Aujourd'hui, ça a été très remis en cause, et c'est plutôt avec son successeur, son frère Boleslav, que vraiment le pays commencera à s'imposer, la dynastie des Pchemislides commencera à unifier la Bohême sous son autorité et à vraiment être maîtresse du pays. Sous Venceslas, il y a beaucoup de tensions, que ce soit avec le voisin de Francie orientale, donc qui correspond à ce qui est devenu après le Saint-Empire romain germanique, et au sein du pays avec les autres familles qui entraient en concurrence, ou du moins, en tout cas, sans parler vraiment de famille, un pays qui était assez difficile à maîtriser dans sa totalité.
Donc c'est quand même un moment où on a une sorte d'embryon d'État qui se forme autour de cette dynastie,
oui.
Peut-être. Et quel rôle dans ce cadre-là joue Venceslas?
Il était en proie à une situation qui était assez difficile. Il n'avait pas, c'était un, comme vous dites, un embryon d'État. Donc ça veut dire un embryon aussi d'armée, un État qui est encore assez mal organisé. Donc c'est plus tout ça, il correspond à une phase, à une étape importante où tout ça commence à se consolider, et finalement c'est plus ses successeurs qui profiteront de ce qu'il a commencé à mettre en place. Mais tout ça c'est très difficile à évaluer parce qu'il faut quand même reconnaître aussi qu'on n'a pas des sources sur tout. En tout cas, c'est un règne suffisamment important pour qu'il corresponde, il est quand même très très clairement identifiable. Et puis surtout, après, Venceslas la figure de Venceslas a été très vite associée, vraiment presque l'emblème de la dynastie des Pchemislides, et cela très vite après sa mort. Donc ça montre quand même que malgré tout, dès son époque, il était un personnage important. Ensuite, il y a eu une tendance à idéaliser, à exagérer un peu ce qu'il avait pu faire, donc ce qui ne correspondait pas tout à fait à la réalité. Il est associé par exemple avec la christianisation du pays, ce qui est vrai. À l'époque, entrer faire partie, enfin se pouvoir montrer patte blanche sur ce plan-là, et donc faire partie des États qui ont un évêché, etc. C'était quelque chose de très important dans les rapports de force entre les différentes entités politiques. Donc c'est vrai que Venceslas, par exemple, a réellement contribué à cela, à faire reconnaître la Bohême comme un État à part entière. Puisque c'est lui, en tout cas c'est son règne, qui a vraiment été que tout a été fait pour que Prague devienne un évêché. Même si c'est plus tard que les choses ont été réellement entérinées, en tout cas c'est Venceslas et sa sœur aussi qui ont vraiment contribué à cet acquis.
L'une des problématiques peut-être pour un embryon d'État dans cet espace-là, à cette époque-là, c'est d'être entre le monde franc et le monde byzantin, où là on a des puissants États. Comment Venceslas a entretenu des rapports avec ces deux sphères d'influence ?
Alors Venceslas, il était soumis en fait à l'État de Francie orientale, donc au monde franc. Il payait un tribut à Frédéric Loiseleur, qui était roi de Francie orientale. Donc son allégeance là était évidente. Il avait choisi son camp en fait.
Avec le monde byzantin, il n'y avait pas vraiment de rapport, ou comment ça se passe? Puisque quelques décennies auparavant, il y avait eu la mission de Méthode et Cyrille, par exemple, en Moravie.
Sous Venceslas, non, effectivement, c'est pas cet aspect-là n'est pas développé, puisqu'il a clairement il a choisi le camp de Francie orientale. Et en fait, ça correspond à une période où il y a plutôt une césure en fait entre les deux mondes. La césure s'accroît et elle va être vraiment entériner le siècle suivant. Il y a une tendance plutôt à désolidarisation des deux.
Sur le christianisme, ces pays slaves sont des États païens, mais on voit que leurs dirigeants ont une tendance à se convertir et à essayer d'entamer la conversion de leur peuple. Et quel rôle joue Venceslas un petit peu dans ce processus?
Difficile à dire, lui, quel rôle il joue clairement, parce qu'en fait, c'est la canonisation de Venceslas et l'utilisation de Venceslas comme duc chrétien, c'est quelque chose qui intervient après sa mort. Lui, concrètement, pendant son règne, bon, alors effectivement, il reçoit en signe d'allégeance, il reçoit de Frédéric Loiseleur le bras de, donc une relique, le bras de Guy, de Saint Guy, et il va consacrer la rotonde qui est devenue la cathédrale Saint Guy par la suite à ce saint, donc en signe d'allégeance aux voisins francs. Et donc, effectivement, il y a un encouragement du culte, mais on voit bien que c'est aussi quelque chose de politique. C'est une manière, d'une part, de manifester l'allégeance de la Bohème à la Francie orientale, donc aux Francs, et c'est une manière aussi de montrer que la Bohème est un État chrétien, et donc de légitimer, en fait, l'existence de cet État. Après, concrètement, en termes de piété, de christianisation de la population, il y a vraiment trop peu de sources pour qu'on puisse se prononcer là-dessus. C'est quelque chose qui est assez mal connu. Il y avait une survivance des cultes païens qui a duré, on imagine, encore assez longtemps. Enfin, c'est très très difficile d'évaluer tout cela.
Venceslas serait mort le 28 septembre, on ne sait pas trop l'année, ça serait 929 ou 935, et dans des circonstances qui ne sont pas très enviables. Est-ce que vous pouvez nous raconter cet épisode?
Venceslas a été effectivement tué par son frère, disons du moins par les hommes de son frère, Boleslav, qui voulait donc devenir duc à sa place. Et donc voilà, c'est c'est comme cela qu'il a perdu la vie. Et ce qui est intéressant, parce que justement il y a une tendance après de la mémoire à idéaliser Venceslas et au contraire à fustiger Boleslav, donc qui a pris le pouvoir à sa place. Et en réalité, l'archéologie montre aujourd'hui que le règne de Boleslav, c'est vraiment celui de la consolidation, celui de l'extension, de l'expansion du pouvoir des Přemyslides et de l'unification de la Bohème sous l'autorité de la dynastie. Donc ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une tendance de la mémoire et ensuite de l'historiographie à tout mettre tout le mérite en fait voilà sur Venceslas, alors qu'en réalité c'est plus venu avec son frère qui a été bien diabolisé du fait de cet acte. Mais bon, après il faut relativiser tout cela aussi. C'était quelque chose de, les assassinats entre membres d'une même dynastie, etc., c'était quelque chose de très courant à cette époque.
Et quelques décennies après sa mort, Venceslas est canonisé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la portée d'une canonisation comme ça au Xe siècle en Bohême?
En tout cas, ce qui est important dans cette canonisation, c'est que c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Venceslas fait partie des premiers membres d'une dynastie à avoir été canonisé. Pour exemple, en France, on a Saint-Louis, donc Louis IX, qui a été canonisé, mais c'est à une période donc plus tardive. Là, des exemples similaires, on en a juste pour la Suède et la Hongrie. Hein, donc il y a très peu. C'est quelque chose qui était assez exceptionnel de voir un homme d'État, si je puis dire, canonisé. Donc c'était très important. Ensuite, le résultat de tout ça, on en attendait quelque chose d'important pour en tout cas légitimer la dynastie régnante.
Quelles sont les sources à partir desquelles, les sources du Moyen-Âge à partir desquelles on a des informations sur Venceslas, et quelles sont peut-être les limites de ces sources?
Justement, là est tout le problème en fait, parce que les sources, en fait jusqu'à la chronique de Cosmas, donc qui date de 1125, on n'a que des sources hagiographiques. Et c'est là en fait que la distorsion en fait entre la réalité qui est difficile à cerner et l'image qui s'est construite autour de Venceslas, c'est là que repose en fait le problème. C'est que ces sources ont eu tendance à exalter, à idéaliser Venceslas, donc par rapport à son frère qui l'a donc assassiné et a pris le pouvoir par la suite, mais également par rapport à sa mère, Dralaromila, donc la mère de Venceslas, est complètement diabolisée dans ses sources. Il y a vraiment une légende noire qui s'est construite autour de Dralaromila, qui est présentée comme une païenne, qui aurait fait incendier les églises du pays, qui aurait persécuté donc les chrétiens de Bohême. En réalité, si Dralaromila était la mère de Venceslas, elle était donc duchesse de Bohême, et donc elle ne pouvait pas ne pas être chrétienne également. Hein, donc présenter Dralaromila comme une personnes païennes, c'est quelque chose de complètement, sur le plan historique, inadmissible. Et donc, c'est un détail, mais qui montre bien que ces sources sont une construction et que c'est très difficile de s'appuyer dessus pour avoir des informations historiques fiables. Et c'est vrai que c'est plutôt l'archéologie, en fait, qui peut donner des pistes, mais de même, les témoignages archéologiques sont finalement assez rares, et c'est une période qu'on connaît très mal.
Vous-même, vous avez travaillé sur la chronique de Dalimil, une chronique qui est écrite en vieux tchèque au début du XIVe siècle. Comment y parle-t-on de Venceslas ?
Alors, la chronique d'Alimil, effectivement, donc, elle intervient dans une période complètement différente, et elle est révélatrice de cette utilisation. En fait, ce qui est intéressant chez Venceslas, et ce qu'on peut vraiment étudier, c'est pas tant son règne à lui, mais l'utilisation qu'on en fait. Parce qu'au départ, le culte de Venceslas est donc lancé pour glorifier la dynastie, glorifier l'État, associer la dynastie et l'État. Et puis, ce dont on se rend compte, c'est que petit à petit, comme toutes ces grandes figures, elles sont tellement consensuelles et tellement mal connues qu'on peut y associer des tas de signification. Dalimil, lui, il est représentatif, en fait, de cette... je ne sais pas si vous l'avez mentionné en présentant, il véhicule donc l'idéologie nobiliaire, et il est représentatif de cette utilisation de Venceslas par la noblesse. Alors, Venceslas, il y a une image très positive, mais comme incarnation de la bohème, plus comme incarnation de la dynastie, ou du moins d'une dynastie qui incarne la bohème plus largement que les souverains, pris individuellement.
Pratiquement à la même époque, ou un petit peu plus tard, mais pas tellement plus tard, il y a Charles IV, l'empereur du Saint-Empire et le roi de Bohème, qui écrit aussi un texte hagiographique sur Venceslas. Quel est l'intérêt pour lui d'écrire un tel texte ?
Alors, l'intérêt pour lui, il est différent donc de celui de Dalimil, et là justement c'est intéressant de voir en miroir les deux types de discours qui peuvent s'opposer, parce que donc Dalimil, lui, utilise Venceslas pour bien montrer que l'État est quelque chose qui dépasse la dynastie Přemyslide, et que donc et il voudrait montrer que la noblesse va être l'élément qui permet de protéger l'État éventuellement contre une dynastie qui ne serait, enfin contre des souverains qui ne seraient pas n'œuvreraient pas à protéger l'État, hein, donc il donne ce rôle à la noblesse, alors que Charles IV, lui, va essayer de récupérer à son avantage l'héritage de Venceslas, sachant que il est dans une position pas très confortable. Comme je l'ai dit en début d'interview, la dynastie des Přemyslides s'est éteinte au début du XIVe siècle, en 1306, et c'est donc dans ces conditions que les Luxembourg sont, la dynastie des Luxembourg est arrivée au pouvoir en Bohême. Et sachant que l'État était vraiment associé aux Přemyslides durant plusieurs siècles en Bohême, il a été très difficile pour les Luxembourg de s'installer. On l'a vu notamment avec Jean de Luxembourg, qui a vraiment dû faire face à des crises importantes. Et Charles IV, lui-même, n'est pas dans une situation si confortable. Surtout qu'il a été élevé en France, donc même s'il parlait tchèque, même s'il connaissait bien, quand même il avait été bien informé, son père avait déjà régné en Bohême, la dynastie de Luxembourg est toujours une dynastie étrangère. Et en fait, il a voulu, via l'héritage de sa mère est une princesse Přemyslide, Eliška Přemyslovna, et donc il a essayé vraiment de se présenter, d'insister sur cette filiation via sa mère entre Venceslas et lui-même, et se présenter vraiment comme le descendant de Venceslas pour légitimer sa position en Bohême.
Et depuis le Moyen-Âge, comment a évolué l'historiographie et le regard porté sur Venceslas ?
Il y a des grandes étapes qui ont été importantes dans cette construction de l'image de Venceslas. Il faut mentionner notamment le renouveau national tchèque, donc au XIXe siècle, après une phase de haute germanisation Les intellectuels, dans un premier temps, tchèques, ont essayé de redonner leur lettre de noblesse à la littérature, à la culture, à l'histoire tchèque. C'est donc au 19e que vraiment, mais cela vaut aussi dans les autres pays, hein, la construction des États-nations est très liée à un retour à l'histoire médiévale. Et là, dans ce cadre, Saint-Wenceslas joue un rôle important comme étendard de la nation tchèque, hein. Il fait vraiment partie des saints patrons, et on le voit donc avec cette fête nationale qui est toujours un moment de cohésion nationale, donc une récupération de Venceslas comme un héros national, un saint patron qui va bien au-delà en fait des aspects dynastiques et politiques du Moyen Âge.
C'est la fin de cet entretien avec Héloïse Ad-Vomachka qui nous a parlé de différents aspects de la vie de Venceslas. Pour accompagner cette interview, ce programme, nous avions Meditatse na Starocheski Choral Svati Vatslave de Joseph Souk. Merci d'avoir suivi cette émission, d'avoir écouté ce programme. Merci de votre fidélité. À très bientôt.